Si vous voulez vous tourner avec moi dans Jean 4, on va étudier ce matin la suite de l'histoire que nous avons commencée la semaine dernière. Et je propose qu'on relise toute l'histoire ensemble. Donc à partir du chapitre 4 de Jean, verset 1, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu 5 maris. » Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos prophètes ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient en disant « Mange, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travailler. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta venue sur terre et pour les choses de ta vie que nous avons dans les évangiles, et notamment dans cet évangile de Jean. Merci pour les vérités que nous voyons, pour comment tu nous révèles le Père, pour comment tu nous montres ton cœur, qui tu es, ton amour pour nous. Aide-nous à voir et à entendre et à mettre en application les choses que tu dis ici, que tu montres à tes disciples, mais aussi à nous, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous donne la vie et qui nous permet de te connaître. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur, en ton nom nous prions. Amen. Donc la semaine dernière, nous avons regardé le début de ce passage jusqu'au verset 30, avec les disciples qui reviennent après l'échange entre Jésus et cette femme. Nous avons vu la semaine dernière que la femme est à l'aise, malgré le fait que Jésus sait tout d'elle. Il connaît toute sa vie, il connaît tous ses péchés, toutes les choses dont elle pouvait avoir honte, toutes les choses qui sans doute pesaient sur la vie de cette femme au niveau social. Elle n'était pas sans doute bien vue, forcément. C'est peut-être, il y a des commentateurs de ces textes qui disent que c'est peut-être pour ça qu'elle vient toute seule à une heure peu commune, parce qu'elle sait que si elle était venue à l'heure où viennent les femmes normalement du village, elle aurait été pointée du doigt et un petit peu mise à l'écart. Et pourtant, malgré le fait que Jésus sache tout d'elle et lui en parle, elle est à l'aise. Elle a pas de soucis. Et Pierre en a parlé, le fait que nous devons avoir de l'amour pour les gens et appeler les gens à venir à Christ, à Jésus d'abord. Jésus, dans son ministère, il établit souvent, premièrement, une relation, et une relation d'amour. Il montre aux gens qu'il a un intérêt pour eux et qu'il se soucie de leurs conditions, de leur vie, sans les accabler, sans les juger initialement. Mais il se sert ensuite de cet amour et de cette relation pour leur dire la vérité, pour les reprendre sur les choses qui ne vont pas dans leur vie. Il ne tolère pas les péchés, il ne les cautionne pas, mais il vient premièrement avec de l'amour. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est un bon exemple. Parfois, nous pouvons être frustrés à cause des péchés des gens qui ne sont pas chrétiens. Nous pouvons peut-être pointer du doigt certaines personnes, dire c'est pas bien, nous énerver même face à certains péchés dans le monde autour de nous. Et c'est pas une mauvaise chose, mais ce dont les gens ont besoin, c'est de Jésus. Si les gens changent de comportement, mais qu'ils ne viennent pas à la foi en Jésus, à la fin de la journée, ça ne leur servira à rien. Ça nous permettra peut-être, de manière peut-être égoïste, d'avoir une meilleure journée, d'avoir des gens autour de nous qui nous sont plus agréables. Mais le premier souci et le problème de l'évangile, et Pierre en a parlé dans certains des passages précédents, c'est que le problème de l'homme, c'est un problème de péché grave et de faillite vis-à-vis de Dieu. C'est pas un problème de petit comportement. Il faut pas qu'on soit mince et qu'on fume pas. On peut réformer nos vies et vivre entre guillemets bien, et ça nous sert à rien spirituellement. L'évangile de Jean nous montre que nous avons besoin de devenir une nouvelle création, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. C'est quelque chose qui ne peut venir que en venant à Jésus, que par l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors cette femme est à l'aise avec Jésus, elle sent cet amour, elle ne se sent pas jugée, et elle va même dans le village, on voit, elle retourne dans le village, et elle parle à toutes les personnes, et elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est incroyable, parce que c'est un petit peu comme si elle criait, il connaît tous mes péchés, tout ce que je suis marié, plein, et c'est comme si elle disait sur la place publique, toutes les choses qui peut-être se disaient en cachet dans son dos. Et là, elle dit, c'est formidable, est-ce que ce ne serait pas le Messie ? Il y a quelque chose d'incroyable dans la manière dont elle va parler à ces personnes. Pierre en a parlé là aussi, le témoignage simple, le fait d'aller simplement dire, venez voir Jésus. C'est, waouh, il est incroyable. Il sait tout de moi et pourtant, il est incroyable, venez le voir. Et on a vu aussi dans le contexte et dans le texte nous le dit, il y a quelque chose aussi dans toute cette interaction de un petit peu décalé au niveau de la société. Jésus bouscule les codes dans tout ce passage. Pierre en a parlé, le fait qu'il soit passé par la Samarie alors que beaucoup de Juifs faisaient le tour, faisaient un long détour pour éviter de passer en Samarie. Il y avait l'envie d'éviter complètement la Samarie et il y avait un racisme incroyable de la part des Juifs envers les Samaritains, comme on le voit plus forcément de nos jours en France, mais comme il y a eu par exemple aux États-Unis avant les années 50 où il y avait les bus qui étaient réservés aux Noirs par exemple et etc etc, ce genre de choses, et avec les Samaritains c'était ça, les Juifs ils voulaient pas leur parler, ils voulaient pas les voir, s'ils les voyaient là ils faisaient le tour pour éviter de passer trop près d'eux. Il y a même un passage qui est avec les disciples, ça nous fait toujours un peu sourire ou rire, mais dans Luc 9, 51 à 56, on n'en a pas besoin de s'y tourner, mais il y a un passage où ils essaient d'aller en Samarie, et les disciples, et ça se passe pas bien, et il y a les disciples qui disent, est-ce qu'on peut demander à Dieu de faire tomber la foudre sur ce village? Et les disciples, eux aussi, ils se disaient, ouais, les Samaritains, c'est pas la peine, ils ont pas voulu qu'on reste là, viens, on les aiguille, c'est bon. Il y avait quelque chose de vraiment ancré culturellement, de très fort. Et Jésus passe en Samarie déjà, donc les disciples sont déjà un petit peu... Puis ils vont chercher à manger. Alors on s'imagine qu'ils étaient avec toutes les règles par rapport à la nourriture, la pureté, etc. Les règles, il y avait peut-être aussi un malaise d'aller dans la ville où c'est qu'on va trouver de quoi manger. Et Jésus parle à une femme, seule. Et là aussi, c'est quelque chose dans la culture de cette époque qui ne se faisait absolument pas. Et de ce que je lisais chez certains commentateurs, ils disaient que les rabbins n'oseraient même pas parler à leur propre femme en public. C'était quelque chose de fort et de typique dans la culture de cette époque. Et on voit dans le texte que celui qui écrit a bien noté que Jésus parlait à une femme, et comme souvent avec les disciples, ils osent pas dire ce qu'ils pensent tout bas, mais ils nous le mettent et ils disent, mais personne n'a osé lui demander, on se dit c'est Jésus, il doit savoir ce qu'il fait, on va pas lui poser trop de questions, on va voir ce que ça donne. Et on voit que Jésus ne s'embarrasse pas des codes sociaux, des règles ou des choses que la société pense sont bonnes ou bien. Quand il veut briser des tabous, il les brise. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, il ne fasse de caution ou qu'il ne tombe dans du péché ou des mauvaises choses, mais il a cet amour pour les gens qui fait qu'il ne va pas s'embarrasser des choses que la société pense. Si lui voit quelqu'un qu'il veut aimer, avec qui il veut avoir une relation, il est prêt à sortir des habitudes, de ce qui est confortable, de ce qui est tranquille. Et je pense que ça doit être un exemple et une exhortation pour nous d'aller et d'être prêt, si Dieu vous met quelque chose à cœur ou vous met quelqu'un à cœur et que ça semble parfois être un petit peu hors de ce qui est bon ou de ce qui est socialement acceptable. Alors, on doit, en tant que disciple de Jésus, être prêt à aller aimer les gens, même si ça semble, au niveau de la société, un peu bizarre. Le pasteur qui a fondé le mouvement Calvary Chapel a eu un ministère auprès des hippies en Californie, dans les années, fin des années 60, 70, et qui a lancé le mouvement Calvary Chapel. Et il y a une histoire, une anecdote qui est relatée. Il était pasteur dans une petite église traditionnelle et ils ont commencé à avoir beaucoup d'hippies qui venaient, qui étaient mal habillés, qui étaient pieds nus, qui étaient en short, qui venaient s'asseoir par terre. Et l'église était une église traditionnelle américaine où il fallait être en cravate, en costume, avec le costume du dimanche, comme il est de bon ton de faire quand on vient à l'église. Et les anciens de l'église ont commencé à se plaindre parce qu'ils venaient d'installer une nouvelle moquette et les hippies, ils venaient s'asseoir par terre. Et le pasteur Chuck, donc dans l'anecdote, il a dit, moi, si la moquette va vous empêcher d'accueillir les hippies, alors on arrache la moquette. Et je pense que c'est un bon exemple de l'amour de Jésus qui nous aime, qui va et qui ne s'embarrasse pas des il est mal habillé, il aime. Et donc pour moi, c'est souvent est-ce qu'il y a des situations où je suis pas confortable, des choses où je me dis je sais pas si je devrais, est-ce que si c'est pour témoigner l'amour de Jésus à quelqu'un, est-ce que j'y vais, quoi. Et l'exemple de Jésus, c'est oui. Alors on arrive après tout ça, donc pendant ce temps, au verset 31, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Les disciples, je pense qu'ils sont un peu encore en panique, ils savent pas trop ce qui se passe, ils ont été chercher à manger, ils reviennent, il est en train de parler, ils sont déjà un peu mal à l'aise, donc ils se concentrent sur les choses un peu simples sur lesquelles ils peuvent se concentrer et être confortables. Donc ils disent, voilà, on a ramené à manger, tiens, mange. Et ce passage est intéressant dans l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean nous montre Jésus comme étant Dieu, Dieu le Fils, comme ayant cette caractéristique qui fait qu'il est pas simplement humain, mais qu'il est Dieu. Mais en même temps, la Bible nous présente un Jésus qui est pleinement homme et qui est aussi limité et contraint, et qui a les limitations que nous avons en tant qu'être humain physique. Et il était vraiment fatigué. Le texte, les mots qui sont utilisés ici au début du chapitre, il était vraiment épuisé. Et il avait humainement besoin de manger, il avait besoin de prendre des forces. Et donc Jean montre avec des petits détails comme ça aussi le côté humain de Jésus, même si il est Dieu incarné en même temps. Donc les disciples en même temps veulent l'aider, veulent se soucier de lui. Et nous avons besoin en tant qu'humains, même en tant que disciples de Jésus, de nous occuper de nos besoins humains. Et parfois, on peut être tenté peut-être de tomber dans un côté un peu spirituel, mystique, où on va dire non, Jésus me donne la force et je mange plus, je dors plus. On a besoin de respecter nos limitations. C'est aussi quelque chose que Dieu nous donne. Il nous donne des capacités à chacun d'entre nous, mais on a besoin, et c'est pas quelque chose qui n'est pas spirituel. On peut parfois penser que il faut pas la nourriture, c'est quelque chose de bassement physique et corporel. Non, Jésus ne Il reconnaît ces choses comme étant pleinement partie de ce dont nous avons besoin, et il ne les met pas sur un plan mauvais, ou il ne les rejette pas. Mais en même temps, ce qu'il dit ici aux disciples, alors au verset 32, il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus leur dit, je tire ma satisfaction et mon identité, je tire une force de ce que je fais la volonté de Dieu. Et il leur dit qu'il y a des besoins terrestres, d'accord, mais il y a quelque chose d'autre qui reste plus important. Dans Matthieu 4:4 et Luc 4:4, quand il y a la tentation que Jésus subit de la part de Satan, il cite un passage dans Deutéronome où il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ici, ça fait un peu écho à ça, avec cette idée qu'il vit de ce qu'il fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est intéressant, sur laquelle il est intéressant de réfléchir. La volonté de Dieu, c'est la meilleure chose pour chacun d'entre nous dans nos vies. La volonté de Dieu pour votre vie est la meilleure chose, et la meilleure vie la meilleure possibilité que nous avons en tant qu'être humain. Et malheureusement, nous ne le voyons pas assez souvent comme ça. Nous voyons peut-être les demandes de Dieu, les exigences que nous voyons dans la Bible, les lois, les règles, les choses peut-être que Paul dit. Parfois, malheureusement, on les voit simplement comme des contraintes, comme des choses qui nous privent de liberté ou de joie. Et je ne sais pas vous, moi, ça m'arrive de réfléchir comme ça, malheureusement. Et en fait, c'est quoi ça ? C'est un retour à la tentation de Satan dans le jardin qui dit non, Dieu il vous a dit ça pour pas que vous soyez vraiment épanoui, pour que vous puissiez vraiment profiter. C'est un des plus grands mensonges de Dieu de nous faire croire que la volonté de Dieu, ce qu'il nous demande dans sa parole, n'est pas bon pour nous. Nous devrions être tout le temps en train de chercher la volonté de Dieu. Ça devrait être une obsession pour nous. Jésus tire sa force, sa satisfaction du fait de faire la volonté du Père. Il est toujours en train de se dire « qu'est-ce que le Père veut que je fasse dans les situations ?» Et Dieu veut nous permettre d'avoir cette même satisfaction, ce même sentiment d'épanouissement et d'accomplissement dans la vie en servant Dieu. Et la réalité est que Satan veut nous dérober cette chance, veut nous dérober cette richesse, veut nous le voler. Et souvent, nous tombons dedans nous passons à côté de cette opportunité de faire la volonté de Dieu et d'en récolter le fruit et d'en profiter de ce que ça nous fasse du bien spirituellement et dans nos vies. Le monde nous dit, fais ce que tu désires vraiment toi et tu seras heureux, tu seras satisfait. Et la réalité est que c'est un mensonge. La réalité, c'est que c'est en faisant la volonté de Dieu que nous serons satisfaits parce que nous avons été créés pour ça. Et c'est intéressant de regarder certains versets qui parlent de la volonté de Dieu, notamment dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. En y réfléchissant, je me dis que c'est presque une... Alors c'est Jésus qui nous la donne, donc je ne vais pas remettre en cause, mais c'est presque une mauvaise formulation, dans le sens où quand on dit ça, on peut avoir une approche très passive de cette phrase. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Moi, je vais aller faire ce que j'ai envie de faire, mais je vais prier pour que ta volonté, tu t'en occupes. Hein. Tu fais ce qui est nécessaire pour que ta volonté arrive. Par contre, moi, je vais faire autre chose. La réalité, c'est que peut-être en plus de ça, il faudrait dire, Seigneur, que je fasse ta volonté. Évidemment, on veut que sa volonté se fasse de manière générale et globale, mais est-ce que nous prions Dieu montre-moi aide-moi pour que je puisse faire ta volonté. Là, ça le rend plus personnel et ça nous implique vraiment. Alors que dans l'autre sens, c'est un petit peu oui, que sa volonté se fasse. On peut regarder encore quelques versets dans Matthieu 7, 21. C'est le sermon sur la montagne. Il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est un passage qui, d'une certaine manière, fait, quand on la regarde, peut nous faire froid dans le dos. Mais c'est pas pour que nous ayons peur, mais c'est pour nous montrer. On peut faire plein de choses, on peut faire plein de bonnes choses, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? C'est ça le meilleur. Des fois, on dit que le bien est l'ennemi du meilleur. Il y a plein de bonnes choses. On peut aller et donner sa vie pour les pauvres, mais est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Si vous voulez avoir un complément d'étude, vous pouvez lire le psaume 119, qui est le plus long chapitre de la Bible. On va pas le lire ensemble ce matin, mais lisez-le si ça vous tente, en réfléchissant à cette idée de la volonté de Dieu. Tout le psaume 119 parle de la parole de Dieu et du fait que quand on regarde la parole de Dieu et qu'on la met en application, quand on y obéit, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. 1 Pierre 3, verset 17. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On peut se tourner dans Colossiens 1. Les versets 9 et 10, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi ? Pour la faire, pour la mettre en application. Pas juste pour avoir une connaissance. Pierre en a parlé la semaine dernière. On peut avoir une connaissance purement, on est au courant. On peut avoir une adhésion intellectuelle où on dit d'accord, c'est une bonne idée. Et après, il y a le fait de mettre sa vie en jeu par rapport à cette idée-là. Et il avait utilisé l'exemple d'un funambule. On peut dire à un funambule, ouais, vas-y, traverse entre les deux immeubles, super, ouais, tu peux le faire. Ça, c'est une sorte de, c'est intellectuellement. Et puis il peut demander, est-ce que je peux y aller avec une chaise? Et là, on peut avoir cette adhésion intellectuelle. Oui, c'est une idée. Oui, tu peux le faire. Et après, s'il nous demande, est-ce que tu veux venir sur mon dos pendant que je traverse entre les deux immeubles? Là, est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on a vraiment la foi qui va nous sauver? Est-ce qu'on a vraiment la confiance qui fait qu'on met nos actions on se met en action par rapport à ce que nous croyons? Dans l'exemple du funambule, que nous croyons que le funambule peut nous porter et donc on est prêt à y aller. La connaissance de la volonté de Dieu pour la mettre en application. On peut se tourner dans Éphésiens. Au chapitre 5, le verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul appuie dessus, il dit « Soyez pas stupides, reconnaissez quelle est la volonté du Seigneur et obéissez-y. » Au chapitre 6 d'Éphésiens, c'est très intéressant, il parle aux esclaves, il dit « Esclaves » au verset 5 d'Éphésiens 6, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. » Ne le faites pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais y obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Et on pourrait remplacer esclave peut-être par employé. Employé, obéissez à vos maîtres terrestres. Ne faites pas seulement sous leurs yeux comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Moi, quand je lis ces versets, quand je pèse le poids de ces versets, je peux vous garantir que je ne fais pas toujours de tout mon cœur tout ce que je fais comme voulant faire de tout mon cœur la volonté de Dieu. Malheureusement, je prie que Dieu me fasse grandir en ça, en ce sens. Nous savons que nous n'arriverons pas dans cette vie à être parfaits aux yeux de Dieu, que c'est le processus de la sanctification que nous prions pour grandir au cours de cette vie, pour devenir plus comme Jésus. Mais pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, quand je lis ces versets, ça m'attriste encore de me dire « j'y suis pas encore, est-ce que je fais de tout mon cœur la volonté de Dieu ?» Et la réponse est que souvent, malheureusement, non. Alors, prions Dieu et encourageons-nous les uns les autres à le faire. Disons-nous les choses que nous considérons comme étant la volonté de Dieu. Si nous voyons dans nos vies ou dans la vie des autres, on devrait pouvoir s'exhorter et s'encourager mutuellement et prier aussi que Dieu nous change et nous donne ce cœur qui et cette vie qui a envie et qui grandit en ce sens. Et on peut regarder aussi le Romains au chapitre 12, un verset que beaucoup connaissent sans doute. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. « Je vous en encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que nous ayons l'intelligence renouvelée pour que nous voyions plus clairement et plus simplement quelle est la volonté de Dieu dans nos vies, dans les différentes situations. Et c'est quelque chose qui évidemment passe en grande partie par le fait de connaître la parole de Dieu, de connaître la Bible. On peut souvent prier pour des situations et avoir peut-être le sentiment est-ce que la volonté de Dieu c'est que je parte habiter là-bas ou que je fasse ça. Ça c'est des choses, on va dire la volonté de Dieu non révélée, non explicite, mais est-ce que déjà nous faisons ce qui est dans la parole de Dieu? Et si nous faisons déjà ça, si nos cœurs et nos motivations sont en accord avec la parole de Dieu, alors on sera déjà quasiment arrivé, même si après les questions d'ordre plus général se posent encore. Mais parfois on évite d'obéir aux choses simples qui sont dites dans la Bible parce qu'on dit je cherche à savoir la volonté de Dieu pour ma vie. Là aussi avec un côté peut-être un peu spirituel, mystique, il faut que j'entende une voix, qu'il faut que je... J'ai un rêve la nuit, que je me réveille, que je sois en extase, et là je saurai la volonté de Dieu. Et ça peut arriver, c'est pas des mauvaises choses. Mais est-ce que déjà je fais ce qui est marqué là? Nous pouvons déjà grandir là-dedans et prier pour les autres situations évidemment aussi. Donc revenons dans Jean 4. Au verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus veut finir le travail. Il veut faire l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Il veut arriver au bout. Ça fait écho à ses paroles sur la croix. « Tout est accompli. » Là, il avait accompli le travail, l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Ça se retrouve aussi dans la vie de Paul, qui dit que je cours pour atteindre le prix. Je veux arriver au bout de la course. Je veux pas être disqualifié au milieu de la course. Je veux accomplir ce que Dieu m'a donné à faire. Dieu veut que nous accomplissions les choses qu'il nous donne à faire dans sa vie. Il veut que nous allions au bout de nos engagements envers Christ, que ce soit des engagements de service ou autre chose. Mais on peut avoir ce désir de faire sa volonté, mais il faut que ça soit accompagné du désir de dire je vais le faire jusqu'au bout, je vais l'accomplir. Et après, il leur parle de la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. La moisson est prête. Il dit aux disciples, la moisson est prête. L'image ici, c'est qu'il y a une moisson d'âmes à sauver. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, mais qui sont prêtes à entendre parler de Jésus et à rencontrer Jésus et à être sauvées par la foi en Jésus. Et que les disciples et les disciples qui suivent dans la Bible et jusqu'à nous, nous travaillons dans la moisson. C'est le sens de la grande commission, c'est de dire, allez, faites des disciples. Et de ce que j'en comprends, quand en agriculture, je suis pas agriculteur, je sais pas, moi-même, mais de ce que j'entends, quand il faut aller cueillir les fruits, l'heure, c'est maintenant. Il faut y aller quand c'est prêt. Il y a une fenêtre de tir assez fine où il faut y aller. Si on attend trop, les fruits pourrissent ou sont trop mûrs pour être transportés et à ce moment-là, ça peut gâcher toute la récolte. Il y a une idée d'urgence, de maintenant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans ce qu'on a lu précédemment de Paul dans Éphésiens, quand il dit « rachetez le temps, ne soyez pas stupides ». Il y a un côté « allons-y ». Et c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est quelque chose de spirituel et que nous avons du mal à voir parfois, parce que nous n'avons pas cette vision toujours comme Jésus pouvait l'avoir, de voir les gens, de voir les foules et de nous dire « la moisson est prête, la moisson est là ». Souvent, quand je pense à ce que nous faisons, à ce que nous pouvons faire pour essayer d'annoncer l'évangile à nos concitoyens à Nice, je vous avoue que mon sentiment, c'est plus qu'on est face à un désert et qu'on espère trouver une petite fleur par hasard quelque part. Et Jésus nous dit non, la moisson est blanche, il y a plein de fruits là, il y a plein de choses, allez-y. Soyez actifs, allez chercher, allez cueillir, allez vous occuper de cette moisson maintenant. Il y a un côté presque, pour moi, qui m'encourage, un côté presque, comment je pourrais dire ça, presque d'un homme, par exemple, quelqu'un qui est un artisan ou qui a une certaine maîtrise dans son domaine, qui prend un apprenti, et puis à un moment il lance l'apprenti, il lui dit vas-y maintenant t'y vas. Et il y a un côté où c'est un petit peu comme peut-être un père pourrait dire à un fils, bon ben maintenant c'est à toi, maintenant tu prends tes responsabilités et tu y vas, tu fais ce que tu dois faire. Et souvent, souvent j'ai l'impression que je dois un petit peu me dire ça pour me motiver. C'est un petit peu bon. Ben, il y a peut-être des choses où on n'a pas envie de. Ça va vous faire rire, mais souvent quand il s'agit des problèmes et des soucis au niveau de l'administration, que ce soit les impôts, les choses comme ça, je sais pas vous, mais j'ai pas une phobie administrative comme certains, mais. Ça tend dans ce sens-là où je préfère essayer de tout faire, sauf avoir à me déplacer aux impôts ou aller à l'administration, ou etc., etc. Et je me dis parfois, bon ben Antonio, maintenant tu prends ta responsabilité à deux mains, tu es un homme marié, tu as deux gamins, tu t'occupes de des choses dont tu as besoin de t'occuper. Sois un homme, quoi. Tu as un côté... maintenant tu t'arrêtes de te comporter comme un gamin et tu te comportes comme un homme. Et malheureusement, je crois que parfois dans nos églises, dans notre vie de chrétien, on peut être comme ça, on peut se retrouver face à quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Jésus. Et on dit, ouais, alors je vais essayer de l'amener à l'église pour que le pasteur, lui, puisse parler de lui à la personne. Sois un homme, sois une femme, prenez votre courage à deux mains et parlez-en à la personne. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le péché, un de vos frères et vos sœurs, n'allez pas chercher le pasteur. Dans certains cas, oui, mais dans des cas simples, si vous voyez quelque chose et qui est inversé, qui dit clairement que c'est pas quelque chose d'ok, prenez votre courage à deux mains et allez-y et dites-le lui. C'est pas marqué. Les commandements que nous voyons ici, c'est pas des commandements où on dit le pasteur, le responsable d'église doit faire ces choses. C'est à nous tous, on est tous ensemble dans le même bateau, on a tous d'une certaine manière les mêmes responsabilités vis-à-vis de ces choses. Et la moisson est prête, et Dieu nous dit à tous en tant que disciples, allez-y, allez travailler dans la moisson. Et il en parle là, et c'est assez incroyable, il dit le fruit va être bon, c'est un fruit éternel, on va avoir une bénédiction spirituelle sur le court terme et un fruit qui a un poids éternel et on va pouvoir se réjouir avec tous les autres travailleurs, on va avoir une fête où tous ceux qui auront accompli ce que Dieu leur a demandé d'accomplir, ils vont en bénéficier, ils vont pouvoir faire une fête ensemble sur tout ce qu'ils auront eu à faire. C'est ce dont il parle ici, et c'est Paul qui fait écho aussi, où on est tous à travailler. Peut-être qu'une personne va parler à quelqu'un de Jésus, et plus tard, quelqu'un d'autre. La personne va revenir à l'église, et quelqu'un d'autre va l'amener au Seigneur, ou quelqu'un d'autre va ensuite lui parler pour la faire grandir dans le Seigneur. On travaille ensemble avec différentes étapes, et on va pouvoir tous bénéficier d'un fruit et d'un résultat, et on va pouvoir tous se réjouir ensemble de ça. C'est même dans cette situation, c'est même intéressant de se mettre dans la peau des disciples et de voir qu'ils étaient déjà un peu en panique, ils étaient en Samarie, c'était problématique. Ils arrivent, ils sont obligés d'aller dans une ville samaritaine pour chercher à manger, ils reviennent. Là, ils trouvent Jésus qui est en train de parler avec une femme. Alors, ils sont un peu, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez dans la scène, moi, je me mets à la place des disciples. Il y a la femme, on se dit déjà, c'est un peu bizarre. Jésus parle seul à une femme, et puis la femme laisse tout et va de manière précipitée en ville. Et ils se retournent, et Jésus est en train de leur dire, voilà, il y a une moisson qui arrive. Et c'est quoi qui arrive? C'est une foule de Samaritains qui sortent de la ville. Sans doute un peu, il y a un peu. Moi, je me mets à la place des disciples. Je me dis, mais est-ce qu'on, Jésus, là, finis ton sandwich, on va commencer à courir, les gars. Là, je sais pas ce que t'as dit à cette femme, mais elle est partie chercher tout le monde et ça sent pas bon là. Si vous mettez en scène, le puits était hors du village, un peu loin, et ils voient une foule revenir. Je me dis, et Jésus leur dit, non, vous avez pas la bonne perspective, c'est une moisson, là, ils viennent, et on doit prier pour avoir cette vision et cette compréhension cette vision spirituelle de la réalité de ce qui est, de voir que c'est pas une foule énervée, mais que c'est une foule qui vient recevoir Jésus. Et il nous dit, il finit, et c'est une réalité aussi, il dit, prions pour des ouvriers. Il le reprend dans Matthieu 9 et dans Luc 10, cette même idée, c'est qu'il y a une moisson, mais il n'y a pas assez d'ouvriers, pas assez de gens qui sont prêts à y aller. Et c'est un petit peu ce que je disais, peut-être que malheureusement pour beaucoup de chrétiens on n'obéit pas. Je sais pas exactement la raison, mais la réalité est que Jésus nous dit dans les évangiles trois fois de prier pour des ouvriers pour aller dans sa moisson, pour être actif dans sa moisson. Alors ça, c'est quelque chose de simple que nous pouvons accomplir de la volonté de Dieu. Parfois, dans vos prières à la maison ou dans nos réunions de prière, prions que Dieu pourvoie plus d'ouvriers, qu'il envoie plus de personnes travailler pour annoncer son évangile, pour faire des disciples, qu'il y ait plus d'églises, qu'il y ait plus de missionnaires, qu'il y ait plus de personnes consacrées à ça, mais aussi que nous, si Dieu nous appelle à aller dans une partie de la moisson, que ce soit au travail, dans nos familles, dans nos amis, que nous soyons prêts à et qu'il nous fasse grandir pour être ces ouvriers qui sont actifs dans sa moisson. Et on voit le fruit au verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait de ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand il vint le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Donc les disciples qui étaient déjà dans le dur, ils sont obligés de rester 2 jours de plus. Sans doute un petit peu émerveillés. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré cette interaction qui est riche, qui est longue, dont ils se souvenaient bien, on voit qu'ils ont transcrit ça dans les évangiles. Si vous voulez vous y tourner dans Actes 1, au verset 7, Jésus leur dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus, il y a ce passage, ils sont en Samarie, il s'occupe des Samaritains, il interagit avec eux. En partant, il leur dit, vous serez mes témoins en Judée et en Samarie. Quand on se rappelle le racisme latent, les interactions qui n'allaient pas entre les Juifs et les Samaritains, nous, on lit, oui, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre, on passe comme ça, mais c'était un peu une offense. Je me dis que pour beaucoup des disciples, là, dans les premiers temps, les Juifs, dans leur tête, ils se disaient, oui, on va aller en Judée, aux extrémités de la terre, mais on va faire le tour de la Samarie pour éviter de... Et on voit plus loin dans Actes, il y a Philippe qui est envoyé en Samarie. Dans Actes 8, on va pas le lire, mais... Il y a plein de Samaritains encore qui viennent à la foi par l'œuvre de Philippe et l'Église à Jérusalem envoie ces Pierre et Jean, je crois, un petit peu en investigateur là. Genre, ah bon, il y a des Samaritains, ils sont venus à Jésus, et donc il les envoie et il prie pour eux et on voit qu'il y a un grand ministère et on voit que peut-être que c'est peut-être le même village ou proche et que peut-être l'œuvre de Jésus dans ce texte avec cette femme samaritaine avait préparé les cœurs et avait préparé le terrain à ce qui vient après et ce qui produit un grand fruit en Samarie et qui va produire un fruit aussi puisque plus tard, c'est même là aussi, c'est encore... Donc il y a Philippe qui va en Samarie, il y a plein de Samaritains qui viennent à Jésus, qui reçoivent le Saint-Esprit, ils restent là, il y a beaucoup de fruits et on voit que Dieu, plus loin dans Actes 10, est obligé de quand même reparler à Pierre pour leur dire que le salut est pour tous, pas que pour les Juifs. Ils avaient toujours pas... C'est incroyable. Et donc pour nous, quelles sont les personnes ou les endroits ou les types de personnes, les gens dans nos vies que nous mettons de côté par rapport au salut? Dieu nous appelle tous à le suivre, à faire sa volonté. Et une grande partie de sa volonté, c'est de voir ses ouvriers à l'œuvre dans sa moisson. Est-ce que nous répondons à ce désir de Dieu? Et peut-être pour certains d'entre nous qui ne croient pas en Jésus, est-ce que Jésus vous appelle, Jésus vous aime, Jésus sait tout de votre vie et il veut avoir une relation avec vous? Est-ce que vous êtes prêts à y répondre? Vous avez un grave besoin qui est un besoin de salut. Si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, la Bible nous explique que vous allez passer l'éternité en enfer, tout simplement. Prions. Dieu, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce texte, merci pour cette œuvre de Jésus dans cette ville de Sichar, pour cette femme, pour ton amour pour tous les hommes. Seigneur, nous sommes tous beaucoup plus mauvais, méchants, pécheurs que nous ne pouvons l'imaginer, et tu nous aimes d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que ce que nous pouvons comprendre, Seigneur, malgré qui nous sommes. Merci de nous avoir appelés des ténèbres à la lumière et de ce que tu veux nous transformer, tu veux nous faire grandir en toi. Seigneur, nous te prions que tous ensemble nous grandissions, Seigneur, dans la mise en pratique de ta volonté, Seigneur. Aide-nous à avoir cette motivation, cette obsession même de dire quelle est la volonté de Dieu pour ma vie dans cette situation. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où ce n'est pas le cas. Merci pour ta grâce qui nous aime et qui nous utilise malgré nos manquements, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement plein d'amour pour nous. Merci pour ta parole, que ces mots, ces paroles pèsent dans nos cœurs, Seigneur, que nous les mettions en pratique dans nos vies. Aide-nous à obéir, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, bénis notre communion fraternelle maintenant, merci pour ce lieu. Tu es si bon envers nous, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.